Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct.
Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin.
Et par extension wa muslima.
Est-ce qu'il faudra tirer ces références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens.
Mimouna ta'arf rabbi, rabbi ya'arf mimouna, mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez le hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha.
Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, salam, azoul, marhaba bikoum sur les ondes de la spiritualité pour ce mois de Ramadan au cœur de l'islam. Et nous sommes ensemble aussi sur x.com via la page Au cœur de l'islam, chien 3. Nous vivons là les meilleurs jours et les meilleures nuits de la vie ou de l'année. Ça dépend si nous serons encore ici l'année prochaine et c'est cela qui est décisif et que les oulémas répètent à tue-tête durant toutes ces dernières semaines. Vivez ce Ramadan et vivez Laylatul Qadr comme si c'était la dernière année à vivre. Et certainement, il y a des gens qui n'iront pas jusqu'au bout de ce Ramadan. Salam alaykoum Kamal Jekan.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah.
Je pense à notre ami Kamal Oulakbi, Rabbi Yarahmo, qui est parti jeune.
Oui, bien sûr.
Il était en bonne santé.
Oui.
Il a donné ses meilleures années à la radio Chien 3.
Ça, absolument, oui.
Rabbi Yarahmo, qui lui accorde sa miséricorde et beaucoup de courage et de patience pour sa maman et sa famille,
même toute
ses
sa
enfants.
Famille,
bien
sûr. Dans des moments pareils, nous ne pouvons que compter. Bon, déjà, à la base, nous ne pouvons que compter sur la miséricorde de Dieu parce que, comme l'a si bien dit le messager de Dieu, nul d'entre vous n'accédera au paradis par ses œuvres. Ils ont dit, même pas toi, au messager de Dieu, même pas moi. Sauf si Dieu me couvre de sa miséricorde. Cependant, donc, il y a des signes, des jours qui sont normalement frappés par la grâce divine, comme ces dix derniers jours ou dix dernières nuits essentiellement du mois de Ramadan, où nous ne pouvons que prier Dieu pour qu'il puisse justement bénéficier de cette grâce divine qui fait que des choses pourrait passer beaucoup, beaucoup mieux pour autant pour lui que pour sa famille.
Oui.
Donc, ce que j'ai su, moi-même, je ne l'ai appris que dans une... J'étais à un enterrement et c'est là-bas que j'ai appris son décès. Donc, j'ai appelé ses frères et puis certains proches. C'est après Salat al-Asr, il a accompli sa prière de l'Asr et il s'est assis à regarder la télévision normalement. Et puis, la mort est venue. Je l'espère, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons comme ça des signes qui peuvent plus ou moins nous conforter dans notre vision autant du monde d'ici-bas que du monde de l'au-delà, eh bien, on en profite. C'est-à-dire que tout ce qui est de bon augure, nous sommes preneurs. Et nous ne pouvons qu'espérer cela pour lui. De toute manière, en termes de comportement, c'était quelqu'un qui était,
excellent.
Je dirais, presque exemplaire. C'était quelqu'un qui était courtois, affable, toujours souriant. Quelques mois avec moi, c'était toujours des blagues concernant des fatwas, etc. C'était le cas lors de notre dernière rencontre. C'était toujours la même question. Est-ce que je peux ne pas jeûner ou est-ce que je peux jeûner une demi-journée comme un enfant, est-ce que je peux faire ci? Il était toujours comme ça, de toute manière, Kamal Oularbi.
Il était très critique vis-à-vis de notre comportement et de nos pratiques culturelles.
Absolument.
C'était quelqu'un qui donnait beaucoup d'énergie. D'ailleurs, je me rappelle les dernières semaines avant le décès de ma mère, Allah yarhamha wa yarhamhum jami'an. Il était toujours là à m'encourager, à me demander de m'investir fortement et
oui,
à faire énormément d'efforts pour qu'après,
pour
qu'il
ne
n'y ait pas
le
de regret.
Oui, exactement. Absolument.
Rabbi yarhamhu yusa alayhi, et beaucoup de courage pour sa famille.
Oui.
Kamashakat, alors l'émission d'aujourd'hui est dédiée à Laylat al-Qadr. Nous sommes d'ailleurs le 23e jour de Ramadan. Il est fort possible que la nuit dernière ait été une Laylat al-Qadr. D'ailleurs, certains savants disent que lorsque une nuit impaire coïncide avec Laylat al-Jum'ah, c'est fort possible que ce soit Laylat al-Qadr. Qu'en pensez-vous ?
Pas forcément, non. Mm-hmm. Pas forcément. L'avis qui me conforte le plus... Bon, le messager de Dieu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith a dit « Il tamisouha fil ashir il awakhir min Ramadan » comme nous l'avons déjà dit auparavant, donc essayez de la trouver ou
de coïncider avec elle
lors des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, autant père qu'impère. Ensuite, il y a un hadith qui affine un peu plus la recherche, on va dire, qui parle des nuits impaires. Et nous savons dans deux hadiths, l'un rapporté par Ubay ibn Ka'b qui est chez Muslim, et l'autre, j'ai oublié le compagnon, mais les deux ont parlé de Laylat Sabi' ou l'Ishrin. C'est une fois le messager de Dieu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, l'a indiqué à ses compagnons. C'est cette nuit. Peut-être que cela a été fait sciemment parce que ses compagnons du messager de Dieu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dont les vies étaient vraiment courtes, peut-être que Dieu a voulu les faire profiter de cette aubaine, de cette manne. Et bon, il faut savoir que les compagnons étaient plus qu'assidus au culte. Donc, on ne peut que supposer que la majorité d'entre eux aient bénéficié des bienfaits de cette nuit durant toute leur vie. Nous savons
parce qu'il y a dans un récit, excusez-moi de vous interrompre, Kamal Shekat, j'ai lu dans un récit que Sidna Sulayman alayhi salam a vécu 500 ans.
Oui.
Idem pour Dhulqarnayn.
Oui.
Et les compagnons ont une fois fait un petit reproche au prophète alayhi salatu wasalam.
Une remarque,
disant que les précédents avaient beaucoup plus de latitude pour prier Dieu et l'adorer, alors que la moyenne de la vie des musulmans, des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, était 60 ans maximum, aux alentours
60
de 60 ans.
À 70, oui.
Oui.
Bon, certains compagnons ont vécu assez longtemps, mais la majorité, justement, en plus, n'oubliez pas une chose, c'était la première génération de musulmans a vécu une vie quand même assez dure, dans la mesure où ils étaient constamment en campagne de guerre, ils devaient se défendre, c'est eux qui ont fait en sorte que cette histoire, cette affaire du messager de Dieu qui est l'islam devienne pérenne.
Exactement.
Donc ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts dans ce sens. Tout comme Dieu leur a accordé un certain nombre de bienfaits, par exemple, quand vous lisez le hadith de Jibril, le dit hadith de Jibril, où Omar ibn Khattab vous dit, nous étions assis, voilà qu'un homme habillé d'un blanc immaculé, à la chevelure très noire,
n'ayant
ne portant
point de
pas
traces de voyage.
Les stigmates du voyage, vint au messager de Dieu, s'assit face à lui et commence à poser des questions.
Genoux contre genoux.
Oui, donc qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, la foi, et qu'est-ce que le bel agir? Et à chaque fois, il lui posait des questions, il lui disait, tu dis vrai. Donc, il connaissait déjà les réponses. Et à la fin, le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, m'a dit, sais-tu qui est celui qui est venu, Omar? Il dit, non, Allahu Rasulu alam, il dit, c'est Jibril venu vous apprendre votre religion. Je me souviens que ce hadith a été le premier que nous ayons abordé dans la première émission que j'ai faite sur TV Coran. D'ailleurs, Feu Aouadi, décédé il y a à peine quelques jours aussi, Allah Yarhamou, qui est à l'époque où il était directeur de cette chaîne, donc la première chaîne religieuse thématique en Algérie. Je me souviens que nous avons abordé ce hadith avec les regrettés, Saïd Chiban et Dr Mohamed Baradouane. Et je me souviens d'un commentaire fait par Dr Saïd Chiban qui en dit long sur sa culture et sa science. Il a dit, là c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui honore les compagnons du messager de Dieu par le fait qu'ils assistent à une transmission ou à une révélation. Ka'annahum haddarahum lil wahy, parce que le porteur de l'wahy, c'était Djibril alayhi salam. Et du fait qu'il soit venu apprendre la religion aux compagnons, ceci veut dire qu'il était porteur d'une inspiration divine, d'une révélation venant de Dieu, parce que nous partons du principe que même la tradition prophétique émane de cette inspiration divine. Il est dit dans le Coran, مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle pas de son propre chef, ce n'est en fait ou en réalité qu'une inspiration révélée. Et c'est ce que nous retrouvons aussi dans l'évangile, dans l'histoire du paraclet. Il ne parlera pas de son propre chef. Et d'ailleurs, pour rappel, quand Jésus dit que Dieu a dit « Je mettrai mes mots dans sa bouche », ça veut dire qu'il parlait d'un prophète illettré qui pouvait annoncer de manière orale ou verbale ce qu'il recevait du ciel, mais qui ne pouvait pas écrire parce qu'il était illettré. Donc, le fait que Dieu ait gratifié les compagnons du messager de Dieu de cet honneur insigne qui consiste à assister à une part de la révélation aurait sûrement fait que ces gens-là assistent à maintes reprises à cette Laylat al-Qadr, mais a fait aussi que le messager de Dieu, alayhi salam, la leur indique. Et c'est là que se pose un problème. Nous célébrons Laylat al-Qadr chaque veille du 27e jour parce que nous avons deux hadiths authentiques qui parlent de cette 27e nuit. Mais l'avis le plus prépondérant est que c'est une nuit tournante. Beaucoup de savants vous diront, peut-être que durant cette année-ci, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, durant cette année-là, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a indiqué cette nuit à ses compagnons pour les faire profiter pleinement de ses bénéfices. Maintenant, pour ce qui est de cette coïncidence avec l'une des nuits impaires et le vendredi, nous n'avons rien de probant à ce sujet en termes au niveau des textes fondateurs.
Alors Kamel Shekat, votre narration au sujet du hadith Djibril m'a rappelé une autre histoire associée à Umm Salama, oui, qui est lors du décès du prophète alayhi salam. Umm Salama, qui est donc l'année succédant le décès du prophète alayhi salam, lors de Ramadan, du mois de Ramadan, Abu Bakr Siddiq et Omar, donc les deux premiers califes, se sont dit « Allons visiter Umm Salama qui, oui, aimait le prophète alayhi salam ». Et dès qu'elle les avait vus, elle a commencé à pleurer.
Parce que, oui, ça lui a rappelé les venues du messager de Dieu alayhi salam.
Oui, donc ils ont commencé à lui faire la morale, ne pas pleurer, tout le monde va mourir et tout. Umm Salama leur dit « Non, je ne pleure pas pour le départ du prophète alayhi salam, mais pour une qita al-wahi ».
Oui.
Elle leur disait, c'est sûr que Sidna Djibril ne descendra plus sur Terre parce que Sidna Djibril est représenté cette onde cosmique, oui, rapportée du ciel. C'est même une fragrance du ciel. C'était comme si c'était le lien avec Dieu subhanahu.
Absolument, oui. Une qita al-wahi. Une qita, c'est là.
Une qita al-wahi.
Tout s'est arrêté. C'est-à-dire que.
Mais la Sourate al-Qadr nous dit que chaque année, lors de Laylat al-Qadr, Sidna Djibril alayhi salam avec des.
Les légions d'anges descendent.
Exactement, descendent sur Terre.
Oui, c'est ce qui provoque justement ce contraste, mm-hmm, qui fait qu'au lever du jour, on peut voir le soleil à l'œil nu comme ça, sans être ébloui, sans risque pratiquement, parce que il subsiste encore des traces de la lumière même des anges, qui est de loin plus importante que celle du soleil.
Alors, Kamel Shekat, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a divisé le mois de Ramadan en trois parties ou en trois décades. Les 10 premiers jours sont ceux de la rahma. La deuxième décade, c'est celle du Ghufran, et la troisième, celle du Itq minan Niran.
Oui, bon, ça s'appuie sur un hadith qui est jugé, oui, faible, même maudor pour certains, mais ça n'empêche pas qu'il y a là une logique qui est que, du fait déjà que vous vous retrouviez dans le mois de Ramadan, c'est déjà une sorte de miséricorde qui vous a touché. Parce que nous avons ce fameux hadith de Djibril, nous l'avons déjà cité durant ce mois, où le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, en montant sur sa chair, dit à trois reprises, à chaque marche, Amin, Amin, Amin. Et quand on lui a posé la question, il a dit, c'est Djibril qui est venu et qui m'a dit, quiconque est présent ou atteint ce mois de Ramadan et ne se voit pas absous de toutes ses fautes, que Dieu l'éloigne. Ça veut dire que du fait déjà de se retrouver dans ce mois de Ramadan, plein pied dans le mois de Ramadan, c'est un signe de miséricorde divine. Donc quand on dit « Waluhu Rahma », il est clair que que nous sommes plein pied, nous nageons même dans cette miséricorde de Dieu. Ensuite, en parlant de marfira, de pardon, de rufran, si vous avez bien observé votre jeûne, il est clair que vous allez de manière inéluctable vers le pardon de Dieu, vers l'absolution de vos péchés. Et la consécration, ou bien la finalité de tout ça, c'est le fait d'être, de se voir affranchi des supplices de l'AGN.
Alors Kamel Chekat, Laylat al-Qadr, c'est le point culminant d'un cheminement initiatique qui nous fait aboutir à la liberté, au détachement d'avec son ego, une nuit où l'on doit se purifier à travers la mujahada tout au long de sa noirceur, et aller vers la lumière, vers l'aube, et cette fameuse levée du soleil sans éclat dont vous parliez à l'instant. Alors, Ramadan et même cette nuit sont semblables à une expérience initiatique, où le but pour les connaissants en Dieu, c'est surtout cette fameuse proximité. Proximité, la distance d'ailleurs y est réduite, et les actions fructifiées, la présence y est plus importante. J'écoutais récemment un faqih qui revenait dans son oraison sur la descente de Dieu subhanahu chaque nuit.
Au troisième tiers de la nuit.
Exactement, vers Sama'l-Oula.
Sama'l-Oula, qui est une dimension qui est la plus proche ou dans laquelle nous nous trouvons, d'un point de vue purement physique.
Celle qu'on peut maîtriser et comprendre,
Celle qu'on peut plus ou moins apprécier, observer, etc. Oui. C'est notre dimension.
Alors, Dieu subhanahu...
Qui est bien, bien plus grande qu'on ne pourrait l'imaginer, attention.
Très bien. Dieu subhanahu est en position d'attente, si je peux dire les choses ainsi.
Oui, de celui qui veut quelqu'un qui a une supplique, qui est une supplique ou une demande particulière à laquelle j'accéderai, y a-t-il quelqu'un qui veut mon pardon et je le lui donnerai, etc.
Mais selon ce faqih, il disait que durant le mois de Ramadan, Dieu subhanahu est présent durant les deux tiers de la nuit.
Je ne sais pas, je n'ai jamais eu vent de cette information. Moi, je sais une chose, ou du moins j'ai pu comprendre une chose, à travers mes maîtres d'ailleurs. Moi, ce que j'ai pu apprendre, c'est que, voilà, ces moments, en arabe, on utilise le mot nafahat. Lillahi nafahatin fata'arradu laha. Je ne trouve pas de traduction, mais en tout cas, Dieu subhanahu wa ta'ala, a des moments où il est dans sa générosité, dans son immense miséricorde, il absout beaucoup plus qu'à d'autres moments. Et les gens doivent généralement jouer sur ça. Les êtres humains doivent jouer sur ça parce que la vie est éphémère. Quand vous étudiez le Coran, vous allez vous rendre compte que Dieu a fait en sorte que certaines choses se fassent en très peu de temps, de manière optimale, alors que d'autres vont perdurer dans le temps et ne vont pas bien se faire. Et c'est cette notion du temps qu'il va falloir comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cette nation, l'a gratifié, lui a fait don d'une nuit qui équivaut 80 années, 4 mois et 4 mois d'assiduité au culte, ce qui fait toute une vie. Vous allez au pèlerinage, par exemple, vous avez l'équivalent pour une seule prière dans l'enceinte de la Mecque, vous avez l'équivalent de 500 000 prières. Vous imaginez, vous faites ça une semaine, vous avez l'équivalent de toute une vie aussi. Et nous retrouvons cette même notion qui est en rapport avec le temps. وَالْيَوْمُ عِنْدَ رَبِّكَ بِأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Donc, 1000 ans. Mais que veut dire 1000 ans ici? C'est une longue période par rapport à l'humain. S'agit-il de 1000 ans terrestres, essentiellement lunaires? S'agit-il de 1000 années lumière? En tout cas, quand Dieu dit تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَرُهُ 50 أَلْفَ سَنَةٍ, c'est beaucoup plus en rapport avec la vitesse à laquelle s'exécute la chose. C'est-à-dire que nous avons des êtres de lumière qui sont les anges, qui vont se transporter d'un point A vers un point B avec une vitesse peut-être supérieure à celle de la lumière, telle que nous la connaissons en tout cas.
Mais même ce nombre Elf Kemal Shakat, 1000, est un nombre équivoque, parce que selon certains, chez les anciens arabes, on ne savait pas compter jusqu'à 1 million ou 1 milliard.
Oui.
D'ailleurs, pour 1 million, on disait Elf Adina.
Oui, absolument. Ce que je veux dire
donc
par là, c'est
que... Donc ça peut être un chiffre exponentiel.
Oui, tout est lié au temps. Ça, c'est un cadeau que nous avons de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que cette Laylat al-Qadr, pourquoi ne pas faire en sorte de vivre l'équivalent de Laylat al-Qadr chaque jour que Dieu fait. Nous avons aussi cette possibilité. C'est ça qui est bien avec la clémence de Dieu. Nous n'avons pas dans notre religion cette notion du péché originel. Nous n'avons pas la notion de la faute qui se transmet jusqu'à la quatrième génération, comme nous le retrouvons dans l'Ancien Testament. Yahya ibn Yahya al-Maghribi, rahmatullahi alayhi, qui était l'Ibn Taymiyyah des Juifs, avant de devenir musulman, dans son fameux livre « Ifham al-Yahoud », et même dans Risale al-Sab'iniya, il est dit que cette religion, qui est la religion juive, est une religion obsolète. Dans la mesure où vous pouvez faire une faute et la payer durant toute une vie, c'est plus qu'un problème. Parce que ce que vous allez payer, les premiers qui vont en profiter, c'est les clercs, c'est les religieux. C'est pas Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, tout se joue sur des détails, sur des moments dont tout le monde peut profiter. Vous vivez la dernière décade du mois de Ramadan. Essayez de capter, d'être au rendez-vous avec cette fameuse nuit de la destinée ou de la valeur, Laylatul Qadr, puisqu'elle vaut beaucoup plus que 1000 mois. Et puis c'est aussi la nuit de la prédestination, parce que comme il est dit dans sourate Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin azim. C'est durant cette nuit que Dieu informe ses anges proches de ce qui va se dérouler tout au long de l'année en cours. Imaginez, vous faites une petite aumône, vous réveillez le matin, ce n'est pas Laylatul Qadr, ça n'a rien à voir, vous êtes en dehors du mois de Ramadan. Vous apportez un bien à un enfant, vous le faites sourire. Vous rendez heureux une dame, une vieille dame, en portant peut-être un objet lourd sur, je ne sais pas moi, sur 2-3 mètres, comme ça, juste histoire de l'aider. Vous faites une œuvre de bien, vous faites une petite aumône, vous souriez à quelqu'un. Tout ça, ce sont des petits gestes qui peuvent paraître anodins, mais qui peuvent vous comptabiliser l'équivalent de Laylatul Qadr.
C'est pour ça que certains disent chercher Laylatul Qadr dans l'agrément de votre maman ou de votre papa.
Absolument.
On l'appelle aussi Laylatul Jabrul Khawatir.
Oui, c'est un djihad. Nous avons un hadith authentique. Un jeune homme qui vient en pleurant, je veux assister à une campagne de guerre avec toi, au messager de Dieu. As-tu l'un de tes parents encore en vie? Il dit les deux même, au messager de Dieu. Alors retourne et tiens leur compagnie et prends soin d'eux. Tel est ton djihad. C'est pas quelque chose de banal. Donc c'est profiter de tous les moments. Cet homme qui a demandé à ses enfants, il n'a pas fait ne serait-ce qu'une chose de bien durant toute sa vie. Il dit, si Dieu a la capacité de m'avoir, il me châtiera un châtiment que nul n'a vu avant moi. Quel père ai-je été pour vous? Tu as été le meilleur des pères. Alors si je meurs, vous allez m'incinérer jusqu'à ce que je devienne un bloc de cendres. Ensuite, broyez-moi, attendez un jour venteux et dispersez mes cendres au gré des vents, et puis une partie aussi dans la mer, parce qu'il ne voulait pas justement assister ou faire face à ses œuvres devant Dieu. فَقَالَ اللَّهُ لَهُ كُنْ فَكَنْ يعني, soit, et le voilà, un être humain normalement constitué. Qu'est-ce qui t'a porté à faire ça? مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ. Et j'ai eu peur de ta rencontre, tout simplement. Ce moment de peur, ce moment où il a vécu une peur de Dieu, subhanahu wa ta'ala, lui a valu l'absolution. Maintenant, le jeûne en lui-même, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. La prière, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Nous avons parlé de cela au tout début de ce mois. Et puis, quand je lis le Coran, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. La mort le frappe, il veut retourner à la vie d'ici-bas. Peut-être ferai-je quelque bien dans ce que j'ai délaissé. Dans sourate Al-Jumu'ah, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ أَوْ أَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Diffère cette mort, et le monsieur, il veut retourner dans la vie d'ici-bas, non pas pour faire zujarakat de génuflexion, mais pour donner une aumône ou faire quelque bien. Nos grands maîtres appelaient cela la vérité vraie, l'haqiqatul haqqa. C'est-à-dire que là, non seulement vous êtes conscient de la réalité de la vie, mais vous êtes aussi conscient de la valeur des actes, une aumône. Nous rêvons tous de mourir en état de prosternation. Beaucoup de gens rêvent, yahbouimoutou sejdin. Le pire dans tout ça, c'est que même ceux qui ne font pas la prière rêvent de mourir en état de prosternation. C'est tout simplement ça. Et donc, le Coran, justement, il nous appelle non seulement à profiter du temps, mais il nous appelle aussi à prendre en considération cette notion du temps. Ya'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Donc cette vie, elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Donc, Laylat al-Qadr est un cadeau venu de Dieu pour parer justement au manque de temps dont prendra conscience l'humain une fois sa vie achevée, et donc il faut en profiter, tout simplement.
Célébrer Laylat al-Qadr, une nuit bénie mais très courte, une nuit noble, la plus prestigieuse des nuits que tous les fidèles d'amour attendent pour toutes les particularités qu'elle comporte et qu'elle renferme. C'est la nuit de la révélation, de la descente du dernier livre saint, une nuit qui est associée à Tanzil, même si deux termes sont utilisés dans la sourate al-Qadr. Inna anzalnahu, tatanazzalu.
Oui.
Donc c'est la nuit de la révélation, de la descente du dernier livre saint, donc une nuit associée au Tanzil, la nuit où toutes les prières sont exaucées, la nuit du changement de la destinée et la nuit aussi du renouvellement.
Absolument.
Mais ce qui est triste de constater, Kemal Chakat, c'est chaque année on se dit qu'on a adoré Dieu comme il le fallait, de façon à acquérir tous les bénéfices, tous les mérites de cette nuit. Mais on constate que rien ne change pratiquement pour nous, pour les musulmans. Au contraire, d'année en année, ça se gâte, Kemal Chakat.
Oui.
Pourquoi, selon vous ?
Je n'ai pas de réponse toute faite.
Est-ce que c'est lié à cette nuit ou à notre mode de vie tout au long de l'année ?
Non, c'est
aux interdits, par exemple, licites et illicites, les interdits alimentaires.
Oui, nous savons une chose. Nous savons que quiconque a bien jeûné, entre guillemets, c'est-à-dire a été à cheval sur les principes du jeûne, ses règles, tous les statuts légaux liés à ce culte, à cette obligation religieuse, va forcément se retrouver dans la même, le même entrain, la même logique tout au long de l'année. C'est un bon signe, c'est le signe que vous avez bien jeûné normalement. D'un autre côté, il y a un certain nombre de paramètres que nous devons prendre en considération. Pour ma part, concernant ma petite personne, si les choses ne sont pas aussi bonnes, toujours entre guillemets, après le mois de Ramadan, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je n'ai pas bien jeûné, tout simplement. Je n'essaye pas de chercher ailleurs. Mais
bien jeûné, c'est Yam al-Jawareh et tout ce qui
oui, tout ça, c'est-à-dire ouais. Vraiment un jeûne qui a été accompli selon les règles. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi d'autres paramètres qui vont entrer en ligne de compte. N'oublions pas que nous sommes pratiquement en train de vivre les derniers instants de cette vie éphémère à l'échelle planétaire.
Oui, 1500 ans selon des récits du prophète al-Islam.
Absolument, nous sommes plein pied dans les signes, certains signes même presque majeurs de l'heure dernière. Donc c'est à prendre
en
considération.
On attend Hamoud Nar, Kemal Chakat.
Oui. J'espère qu'il tardera un peu à venir parce que si c'est Nous sommes plein pied dedans, apparemment. C'est ça le problème. Et donc, il y a d'autres paramètres. Donc, il y a ça, ces signes avant-coureurs de la fin des temps, où le mal devient institution, malheureusement. Et vous voyez
c'est la
comment,
morale d'Epstein qui sévit,
oui,
Kamal Chakat.
Oui, vous voyez comment les musulmans, les croyants sont malmenés à travers le monde, tout simplement pour leur foi, hein, pas pour autre chose. Je pense qu'une bonne religiosité ou bien une bonne conformité à l'islam devrait vous inciter à vous poser des questions à vous-même en prenant en considération l'aspect que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire moi, si je ne suis pas, on va dire, optimum en termes de conformité aux préceptes de l'islam, ça veut dire que j'ai mal jeûné, tout simplement. Mais pour les gens, n'ayez jamais cette opinion. Attention, c'est quelque chose de très grave. C'est-à-dire que si vous êtes dans la logique qui est la mienne, ça veut dire que vous vous occupez de votre foi. Mais si vous parlez des autres, attention, ça veut dire que vous vous portez juge sur leur conscience, sur leur foi, etc. Et ça, c'est du ressort de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Je vous raconte, il y a quelques jours, à la prière de l'Asr, je suis entré dans la mosquée parce qu'on avait un décès. Il y avait beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour assister à Salat al-Janaza, de la défunte. Il y a quelqu'un qui entre et qui dit « Ah, beaucoup de monde, hein. Si au moins c'était comme ça pendant le iftar, hein, les gens ils ne viennent, ils parlaient à haute voix. Les gens ne viennent que pendant Ramadan, etc. » À un moment donné, je voulais aller le voir pour lui dire « Non, tu te prends pour qui ? Qui es-tu pour formuler, pour faire pareille remarque ? Ces gens-là ne sont pas chez toi, ils sont venus dans la demeure de Dieu. Hum fi baytillah. Ils viennent quand ils veulent. Et s'ils ne viennent pas, ça n'est pas du tout ton problème. Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Vous n'avez aucun reproche, aucun grief à subir si les autres ne veulent pas croire. Quand vous voyez l'état général de cette nation, iltamisul a'dar, cherchez des excuses à vos frères et sœurs. Pourquoi les choses vont aussi mal? Parce qu'il y a des crises, une crise multidimensionnelle. Nous sommes dans une absence de sens carrément. Nous sommes dans un environnement mondialisé où nous subissons les dictats d'autres civilisations, d'autres cultures. Et malheureusement, ça n'est pas facile. Ça n'est pas du tout facile pour le commun des musulmans d'être au top sur le plan religieux. Nous ne pouvons qu'espérer en la clémence et la miséricorde de Dieu pour que tout aille bien.
Kamal Chakat, citons si vous voulez bien l'avis ou bien les définitions des premiers oulémas, des grands oui. savants de la nation, quelqu'un qui est incontournable, que ce soit pour les sciences exotériques ou ésotériques, Imam al-Qushayri,
oui.
qui disait dans son livre « La Ta'iful Isharat » أن ليلة القدر ليلة قصيرة على الأحباب لأن فيها مسامرة وخطاب.
Oui, c'est une nuit qui est très très courte pour les l'ahbab. Ça veut dire c'est des gens, oui, qui ont développé cette fibre sentimentale à l'égard de Dieu, qui sont passés du statut de musulman qui adore Dieu parce qu'il est dans l'obligation de le faire, à un statut de personne aimant Dieu, éprouvant de l'amour pour Dieu subhanahu wa taala. C'est-à-dire que parce qu'un cheminement, un bon cheminement, devrait faire que vous adoriez Dieu par obligation. Ensuite, cette obligation va mûrir de sorte à ce que vous commenciez à éprouver de la crainte, pas de la peur, hein, pas une peur qui vous givre, qui vous tétanise, non. Une crainte, c'est-à-dire que vous êtes dans une sorte de peur très très sobre, très très réfléchie. Et le summum, c'est d'aller vers l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Oui. Et quand vous êtes généralement, c'est-à-dire que là, il faut se rapporter à soi-même. Quand vous êtes dans une assemblée où il y a de la convivialité, il y a une compagnie qui est bonne et sûre aussi, vous êtes par exemple dans une veillée et vous ne vous rendez pas compte jusqu'à ce qu'on vienne vous dire, attends, c'est l'aube, hein. Vous avez passé 5-6 heures à discuter, parce que les choses sont belles, tout simplement. Mmh. Et donc, pour ceux qui vraiment goûtent vraiment à cette nuit, les choses vont passer très très vite, c'est clair.
Donc c'est une nuit courte. ليلة يجد فيها العابدون قدر نفوسهم ويجد فيها العارفون قدر معبودهم وشتان بين وجود قدر وشهود قدر.
Alors, la contemplation. C'est une nuit durant laquelle? Qu'est-ce qui est dit?
Laylatun yajidu fiha al-abiduna qadra nufusihim.
Donc oui, c'est une nuit durant laquelle les adorateurs vont se rendre compte de leur rang, de leur rang réel.
De la valeur de leurs âmes?
Oui, absolument. Mm-hmm. Vous savez, une fois j'entendais quelqu'un qui disait, quiconque ne lit pas le Coran, ça veut dire que Dieu l'a éloigné de sa miséricorde, tout simplement. Vous êtes sûr que vous êtes plein pied dans Laylat al-Qadr et vous ne faites que deux ou quatre génuflexions, et vous vous dites, Alhamdoulilah, allez, j'ai assisté à Laylat al-Qadr.
Ouais.
C'est faux. Tu aurais été vraiment dans Laylat al-Qadr, dans son ambiance, tu n'aurais pas quitté la prière, l'invocation de Dieu, parce que tu aurais été plus à même d'apprécier ces moments d'intimité avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, et les bienfaits dans lesquels tu te trouves.
Et justement, donc ce n'est pas juste une gestuelle, Kamal Chakat, une
automatisation. Non, pas du tout. Et c'est le fait d'être dans la prière elle-même, dans tous ses sens, hein, la prière dans son sens étymologique, doctrinaire, etc.
La présence.
C'est ça qui fait que, bien sûr, c'est ça qui dénote la hauteur que vous avez, ou bien c'est ce qui fait justement votre valeur auprès de Dieu.
ليلة يجد فيها العابدون قدر نفوسهم ويجد فيها العارفون قدر معبودهم وشتان بين وجود قدر وشهود قدر.
Oui, c'est aussi une nuit durant laquelle les connaisseurs de Dieu ou les connaissants
en Dieu
vont justement se rendre compte ou prendre conscience du divin, de l'entité,
réaliser la valeur de leur adorer.
Absolument. Et là, alors il y a le fait de savoir ce que l'on vaut, ou de comprendre ce que vaut Dieu, subhanahu wa ta'ala, ou bien prendre conscience de cette entité divine. Et il y a, quand il dit shuhud, ça me rappelle, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Quiconque est d'entre vous est présent lorsque le mois s'annonce, qu'il jeûne. Cette présence, justement, c'est quelque chose qu'on ne peut expliquer. C'est quelque chose qui se vit. Et là,
ça rappelle le livre des contemplations de Ibn Arabi.
Oui, et là, les gens vont se retrouver. Si quelqu'un arrive à vivre cela, il va vivre ce que les sciences sociales appellent une expérience limite, ou une expérience limite du sens. C'est quelque chose qui va vous mettre, comme ça, en un clin d'œil, devant la vérité nue. Vous allez prendre conscience de tout. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux, vous allez arriver à discerner entre les deux sans science préalable. C'est-à-dire, de toute manière, ce sont là des choses qui ne s'apprennent pas à l'école. Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à mesurer, à analyser sous un microscope. C'est quelque chose de transcendant. Et les gens, parfois, on appelle ça aussi l'illumination. Ça me rappelle « Allahu nuru samawati wal ard ». C'est ça, vous vous rendez compte
de ce que
j'appelle aussi la parabole de la lumière que j'ai eu l'occasion d'analyser durant les courts programmes avant le Maghreb, ici même sur Al-Jeshin 3. Shuhud ici, c'est cet instant où vous vivez cette réalité, vous vivez cette expérience. C'est quelque chose d'incroyable. Selon ce que nous disent les connaissants, l'arifoun. Absolument. Il y a la majorité des gens sont dans l'ambiance, mais ils n'arrivent pas à la boire, à l'avaler, à s'en imprégner. Tout le problème est là. Être dans l'ambiance, c'est vivre l'ambiance. Je serais même tenté de dire être dans une ambiance et arriver à faire en sorte que l'ambiance vous pénètre.
Comment Chekat Cheikh Ben Aliwa, Mustafa
Al-Arabi,
un grand de chez nous, disait au sujet de Laylat al-Qadr, « Ya Laylatan min layali d'ahri qabalat fiha badraha bi badrin. »
Le deuxième badr, ça ne serait pas le messager de Dieu,
exactement. C'est pour ça que les connaissants de Dieu l'appellent Laylatun Muhammadiyya.
Oui, parce que Layla Muhammadiyya, c'est un titre qui est amplement mérité dans la mesure où cette Laylat al-Qadr n'a été accordée à cette nation que parce que cette nation a eu un prophète, un messager, qui passait son temps à prier pour cette nation. Et c'est pour cela, oui, c'est pour ça que nous avons entre autres l'intercession, Shafa'a, qui interviendra le jour de la résurrection.
Kamashekat, je vous avais parlé hors antenne la semaine dernière de ce que j'ai pu lire dans certains ouvrages, qu'il y avait une certaine préférence pour Laylat al-Mawlid al-Nabawi par rapport à Laylat al-Qadr. Et beaucoup de savants musulmans ont attesté de la précédence de la nuit du Mawlid al-Nabawi sur la nuit du destin. Parmi ceux-là, de grands noms, notamment l'imam Malik, l'imam Nawawi, l'Hafiz al-Qastalani, Samhoudi, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziya et beaucoup d'autres noms.
Oui.
Qu'en pensez-vous?
Oui, ben, écoutez, pour moi, chaque nuit a sa juste valeur. Laylat al-Mawlid est une nuit que nous commémorons, parce que, ou une journée même, parce que c'est celle de la naissance du messager de Dieu, alayhi salat wa salam, qui est un événement majeur dans l'histoire de pour tout l'univers, hein, dans la pré-éternité même. Mais Laylat al-Qadr, c'est la descente du Coran dans le ciel terrestre. Je pense que chaque nuit a...
Le Coran qui a été le miracle de Sidna Mohammed.
Oui, chaque nuit a ses mérites, à mon sens.
C'est pour ça que les savants de la Tijaniya disent Kamal Shakat, « Ida la mahat aynaka noura Muhammadin fa kulla layali yafata Laylat al-Qadri ».
Absolument. Absolument. Si c'est... vous arrivez à créer cette intimité, cette proximité, ne serait-ce que par le biais du monde des songes, dans le monde onirique, on va dire, parce qu'il y a Al-Tiqa al-Arwah.
Oui.
Si vous arrivez à créer cela, eh bien, enfin, quand je dis créer, à susciter cela, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque instant de votre vie, vous pouvez en faire un instant unique. Où vous allez vous attirer toutes les grâces de Dieu. C'est pour cela qu'il y a l'assiduité au culte, comme c'est celle qui nous est rapportée dans ce fameux hadith « Man nuqish al-hisab a'uddib ». C'est-à-dire que voilà, le monsieur, il a adoré Dieu pendant 500 ans, a demandé à Dieu de prendre son âme alors qu'il serait en état de prosternation, « sajid ». Dieu a fait en sorte que l'homme en question ait à ses pieds une source d'eau, et un palmier desquels il pouvait se nourrir à profusion, et il a adoré Dieu pendant 500 ans. Le jour du jugement dernier, Dieu lui dit « Entre au paradis par ma miséricorde ». Il dit « Mais Seigneur, j'ai agi aussi, j'ai fait ça par mes œuvres ». Et il sera confronté au bienfait de Dieu, au bienfait de la vue. Ce seul bienfait de la vue va l'emporter sur toutes ses œuvres durant 500 ans. Et il ira en enfer, parce qu'il a trouvé matière à négocier, à rechigner, on va dire, sur ses propres comptes. Et puis d'un autre côté, vous avez une prostituée des enfants d'Israël qui va tout simplement abreuver un chien, un élan d'humanité, un moment où elle a atteint un degré que seule l'assiduité au culte peut donner, c'est-à-dire mériter son titre d'être humain, ça lui a valu le paradis.
Ça dit quoi de cette religion, Kamal Shakat?
Ça veut dire que c'est un message d'optimisme. Vous savez, je l'ai déjà raconté cette anecdote. C'est un imam qui raconte à un imam que j'ai connu. Et il lui dit, dans la mosquée où j'officie, il y a, dans l'entourage immédiat de la mosquée, il y a un buveur invétéré, connu justement pour la beuverie, etc., et pour les problèmes qu'il peut causer quand il est dans un état d'ivresse. Un vendredi, alors que je m'apprêtais à monter sur le mimbar, j'entends un brouhaha comme ça du côté de l'entrée de la mosquée, et puis qu'est-ce qui se passe? C'est l'ivrogne, en quelque sorte, qui vient, qui veut entrer dans la mosquée de force. Bien sûr, les gens ont voulu l'en empêcher. Et dans son état d'ivresse, il disait « je vais rentrer ». Ce n'est pas votre demeure, c'est la demeure de Dieu. Je suis venu chez Dieu, pas chez vous. Je vais rentrer. Et l'imam en question a eu assez de clairvoyance pour le laisser entrer. Il lui dit, attends, on te laisse entrer, mais tu restes tranquille. Pas de problème, pas de scandale, rien. L'autre, il dit, non, il n'y a pas de problème. Il dit aux jeunes, alors emmenez-le vers Beit al-Wudu, qu'il se lave un peu la bouche comme ça, histoire d'enlever un peu, de se dégager un peu des odeurs que son haleine dégageait. Et puis il lui dit, mais attention, si tu fais le moindre problème, tu auras affaire à moi. Il l'a menacé un peu, il l'a un peu sermonné. Bon, il est entré. Il est descendu vers Beit Lwudhu, il a fait un semblant d'ablution, il est remonté. Et après la prière du vendredi, l'imam, il entend takbir. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme en question est mort en plein sujoud.
Allahu Akbar.
Alors, qu'est-ce qui a appelé cet homme à venir dans la mosquée juste avant sa mort? C'est peut-être qu'il a dû faire quelque chose qui lui a valu cette miséricorde. Ouais. C'est ça, attention. Ça me rappelle.
C'est un secret entre lui et Dieu.
Ça me rappelle une blague. Yamin al-Mubkiyat al-Mudhikat, en fait. Ça peut faire rire, mais normalement, ça devrait nous faire pleurer. Et ça en dit long sur notre religiosité en tant que société. C'est un imam qui est envoyé dans une petite bourgade pour prendre ses fonctions. Il arrive, eh bien, bon, il est bien accueilli, et il a une bonne récitation du Coran, il fait de bons prêches, etc. Bon, tout le monde l'entoure, oui, c'est cher, si tu as besoin de quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Et tout le monde était là à dire, etc. Et bon, il y avait des gens qui étaient bien nantis, des milliardaires, etc. Ça vous met en confiance quand vous avez des gens comme ça qui vous disent, est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit? Je suis là, tu appelles à tout moment, etc. À chaque fois qu'il allait vers la mosquée, il passait par une taverne, Tberna. Et bon, la première fois qu'il est passé par cette taverne, il a remarqué que ceux qui étaient assis devant la porte ou à l'intérieur, c'était des gens qui étaient là pour une mauvaise chose, la beuverie. Ce qui ne l'a pas empêché de dire « Salam alaikum » en passant par eux. Et les gens, ils ont dit « Mais c'est qui celui-là? C'est le nouvel imam. » « Ah bon, il nous a dit salam. Ah ça, c'est une personne bien. » Au moins, il ne nous a pas regardé d'un mauvais œil comme l'ont fait les imams qui l'ont précédé, etc. Et à chaque fois qu'il passait, à un moment donné, il y a même les gens qui attendaient son passage pour récolter ce fameux salam alaikum et répondre à l'imam alaikum salam. Peut-être que ça leur donnait l'impression d'être des gens, on va dire, normaux, entre guillemets. Et c'est quelque chose de bien. Un jour, bon, sa fille tombe malade, il va voir le médecin. Et le médecin lui dit, écoutez, c'est un cas quand même, bon, c'est pas d'une gravité extrême, mais la maladie peut évoluer très vite, et moi, je vous conseille d'aller directement, il faut procéder à une chirurgie. Le problème, c'est que, bon, au milieu public, il y a beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup d'attentes, je vous conseille d'aller vers le privé. Et l'autre lui dit, bon, l'imam, il dit, oui, mais bon, combien ça va coûter dans le privé? Il lui dit, 70 000 dinars. Oh, rien que ça. Bof, avec tous les milliardaires qui m'entourent, ça. En deux temps, trois mouvements, je vais récolter la somme. Il va à la mosquée, il appelle tout le monde. Voilà ce qui s'est passé. Donc, j'aurai. Et puis, là, c'est là que ça commence. Dramir en barra. Wallah, ya shikhira, zdom tfira, ferum al qadir. Shkul wahad ou shaka. Bon, le mohim, zéro dinar récolté. Il retourne, il rentre chez lui et il était vraiment. Il était abattu. Il passe par la taverne. Il était dans un état second pratiquement. Il dit pas salam alaikum. Et voilà que l'un des buveurs lui dit « Oh, shir, matrounash salam, il dit ala zidli hammakinta. » Il était soucieux de la santé de sa fille. Et le propriétaire de la taverne, il entend crier comme ça. Il sort, il dit « Si j'apprends que l'un de vous les blesser par un propos ou quoi que ce soit, vous ne viendrez, je vous laisserai plus venir ici. » Il était dans tous ses états et il a attendu pour la prière de l'Asr. L'homme revient vers la mosquée, il passe et le propriétaire, le tenancier du bar, ou appelez ça comme vous voulez, il va vers lui et dit, cher, je m'excuse, peut-être tout à l'heure j'ai remarqué que peut-être qui vous a porté atteinte, qui, je connais khalat fek, cher. Il dit, non, personne, en fait. Voilà, il lui a raconté l'histoire. Et combien il vous faut? Il dit 70 000 dinars. Et je n'ai pas la somme et ça peut dégénérer. Ah, cher, attendez un moment. L'autre, il est entré dans son bar. Il leur a dit, bon, cher, il a besoin d'argent. Et hop, une collecte en deux temps, trois mouvements, la somme était prête. Il sort, il lui donne le. Et l'autre, l'imam, il leur dit, écoutez, je vais à la mosquée. Je fais la prière avec les fidèles, je reviens, on va écrire une reconnaissance de dette et moi je vous rembourserai à petit coup. Hein. Je ne peux pas me permettre de rembourser d'une traite. Tout le monde lui dit « Ah, wa shir salalik, ah, ta matrat, ch'deil narbi yadina. » Que dit l'imam? لا لا بقاو كيما راكم ريستي كوم سا بدا بكم ما تبدلوش بون Je ne veux
la
pas
morale.
Dire. Attendez, la morale, c'est pas dans la mosquée, il y a beaucoup de gens bien. Et les gens des mosquées, Ahlul Masajid, Ahlullah, Inch'Allah. Mais vous trouverez beaucoup, dans beaucoup de ceux qui sont surtout les buveurs, hein, il y a beaucoup d'humanité chez ces gens-là. Et c'est pour cela que quand vous voyez l'un d'eux dans la rue en train de chanceler, de tituber comme ça, priez pour lui. Ne l'insultez pas, ne le maudissez pas. Priez pour lui. Parce que vraiment, vraiment, ce que j'ai pu remarquer, c'est pas un avis personnel, hein, c'est un avis vraiment général, sauf une petite proportion d'entre eux, la majorité ont un cœur, mais incroyable. Et il y en a beaucoup, attention, il y en a beaucoup, qui sont meublés, ils sont addicts à la boisson, mais ils font des œuvres terribles. Il y en a qui pendant des années ont aidé des veuves avec leurs orphelins, il y en a beaucoup qui font ça. Et ça, croyez-moi, ça ne passe pas comme ça auprès de Dieu. C'est quelque chose qui va peser pour ces gens-là le jour du jugement dernier. Bien sûr, la beuverie, c'est une chose qui est mauvaise, qui n'est pas bonne, qui est interdite en religion. Mais dans des cas pareils, essayons de faire la part des choses entre le statut légal du mal qui est en train de se faire et la personne elle-même, parce que ces gens-là subissent ce mal au même titre que d'autres personnes. Donc c'est ce que je voulais dire, hein. Ça peut faire rire, mais ça devrait aussi nous faire pleurer sur ce que nous sommes en train de faire. Sommes-nous à la hauteur de cette clémence et miséricorde de Dieu ? Avec toute notre clairvoyance, notre lucidité, sommes-nous en train de profiter justement de cette manne divine ? Tout le problème est là.
Merci pour cette anecdote, Kamal Chekat. J'espère que nous tirons les bonnes leçons. Kamal Chekat, nous continuons avec Laylat al-Qadr. Nous nous rapprochons de la fin de cette émission d'aujourd'hui. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une corrélation entre les différentes sourates ? La sourate al-Qadr est précédée par sourate al-Alaq et le dernier verset, c'est « Kallala tuta'ahu wasjud waqtarib ».
Oui.
Il commence par la lecture du Coran et puis « wasjud waqtarib ».
Cette corrélation entre les versets entre eux et les versets et les sourates et le remplacement aussi dans le Coran qui ne correspond pas à la révélation chronologique telle qu'elle s'est faite sur les 23 années d'apostolat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un sujet qui est largement développé par l'imam Rifa'i dans Tanasubul Ayat et Suwar. Oui. Mais le problème, c'est que l'idée initiale et celle d'un savant de Zouawa, qui est cité dans Savant de Zouawa de Dr. Blalam. Il y a justement une corrélation. C'est pour cela que quand vous lisez certaines exégèses, essayez d'aller vers aussi une exégèse qui consiste à mettre en exergue le lien qui existe entre les versets et les sourates.
Par exemple, les derniers versets de la sourate Al-Ma'ida avec l'An'am, l'An'am avec l'Anfal.
Même, vous allez prendre la sourate Al-Fatiha. Ça commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, vous lisez dans le Coran, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil. C'est la dernière chose qu'on dit, louange à Allah. En fait, on dit louange à Allah. Certains se sont posés la question. Parce que la louange, c'est quelque chose par laquelle on commence, ça intervient en tant que liminaire dans une demande, dans une supplique. C'est pour ça qu'on appelle sourate al-Fatiha, suratu ta'limi al-mas'ala. On vous apprend comment formuler une demande. Mais d'un autre côté, ce verset intervient ici avec al-hamd parce que normalement, vous venez de terminer la lecture du Coran, vous l'avez compulsé en entier, et vous allez entamer un nouveau tour, un nouveau cycle.
Ouais.
C'est pour ça qu'on dit l'hillu l'murtahil. Vous savez, il y a certains imams qui, par exemple, salat al-maghrib ou bien l'isha, ils vont lire dans la première génuflexion « Qul a'udu bi rabbin nas ». Et il faut éviter, quand vous êtes en prière, ce que les savants appellent « tenkis ». C'est-à-dire que vous êtes censé lire les sourates du Coran dans l'ordre qui est celui du mushaf. Il n'est pas bien séant de lire sourate al-Falaq dans la première et de lire « Qul hu Allahu ahad » dans la deuxième. Il faut faire l'inverse. Certains font par moments ça m'est déjà arrivé en tout cas, vous lisez, vous entrez dans votre prière, vous lisez surtout Salat al-Maghrib, parce que c'est la seule Salat Jahriya où on lit les sourates courtes, vous lisez Qul a'udu bi Rabbin Nas. Certains savants sont d'avis que vous deviez aller ensuite vers Alif Lam Mim Dal Kel Kitab ou la Riba Fe, c'est-à-dire pour aller en début de cycle, parce que vous étiez à la fin du cycle.
Exactement, oui.
C'est pour ça que l'Hamdoulilah intervient. C'est comme si vous remerciez d'une part Dieu pour vous avoir permis de lire le Coran en entier, et ensuite vous commencez justement une nouvelle récitation par cette formule par laquelle on introduit une multitude de choses. Kullu amrin la yubda'u fihi bilhamdulillah. Dans une autre version, dans un autre hadith, bismillah, fahuwa
aqta'u ajdal.
Ouais. Donc il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et Alhamdulillah.
Alhamdulillah, exactement. Oui. Je vous remercie Kamel Chekat pour tous ces détails. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission d'aujourd'hui, l'émission du vendredi 23e jour de Ramadan, où il était question de la nuit de la grande valeur et de la détermination, parce que bien sûr tout émane du pardon, et ce n'est pas pour rien que le doigt majeur de cette nuit, selon un récit de Sayyida Aisha Umm al-Mu'minin.
Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-'afwa fa'fu 'anni. Seigneur Dieu, tu es pardonneur.
Tu aimes le pardon.
Tu aimes le pardon. Aussi, pardonne-moi.
Pourquoi il ne faut faire un focus que sur ce doigt?
Bien sûr, on peut prier, bien sûr, on peut prier autant pour les choses de l'au-delà que pour les choses d'ici-bas. Mais le jour de la résurrection, c'est la seule valeur refuge, c'est le pardon, la clémence de Dieu.
Qu'est-ce qu'on pourra dire à nos chers auditeurs? De donner le maximum pour cette nuit,
oui.
Pour ces 10 dernières nuits.
Oui, absolument.
Oui. Même
absolument.
La dernière nuit de Ramadan, parce
oui,
que
oui,
c'est
oui,
une
oui,
nuit
absolument.
Où Dieu pardonne autant qu'il a fait tout
oui,
au long
oui,
du mois de Ramadan.
Oui, tout au long du mois de Ramadan, c'est ouais. La nuit du pardon. Mais cette nuit de Laylat al-Qadr, elle a quand même beaucoup plus de valeur. Essayons d'en profiter.
D'en profiter et de cultiver l'espérance.
Inch'Allah.
Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été des nôtres. Saha siyam koum. Et à demain, Inch'Allah. Au revoir.
آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.